Y a-t-il des questions ? Par rapport au cours précédent, sur le point de vue de cette recherche sur ce qu'est la vérité, comment comprendre la naissance de la vérité, hein, c'est ça qu'on cherche. Parce qu'il y aura diverses modalités de la vérité, mais il faut comprendre le premier moment. Si on ne comprend pas le premier moment de la vérité, c'est difficile de comprendre les seconds. Alors il faut comprendre ce premier moment de la vérité. Et ce premier moment de la vérité, il repose sur le jugement fondamental, par où le jugement est parfaitement jugement, le jugement d'existence. Ceci est. Vous voyez, on y revient tout le temps. Je ne vois pas comment on pourrait faire une critique sans le jugement d'existence. Je ne vois pas comment on peut faire une métaphysique sans le jugement d'existence. Je ne vois pas comment on peut faire une philosophie réaliste sans le jugement d'existence. C'est vraiment ça qui est à la racine. C'est ça qu'il faut le comprendre. Et il faut comprendre que c'est l'éveil profond de l'intelligence lié au sens. De fait, c'est le conditionnement de notre intelligence. Nous sommes liés aux sensations. Alors évidemment, on sent très bien que dans l'histoire, il y a eu diverses réactions. Il y a eu des gens qui n'ont pas accepté que leur intelligence soit dépendante des sens. C'est très ennuyeux pour l'intelligence d'être dépendante des sens. C'est la prison. Alors on voudrait s'évader. Alors à ce moment-là, quand on s'évade, vous voyez, le premier jugement n'est plus le jugement d'existence, c'est le cogito. C'est le intelligo d'Occam. C'est j'intellige, je cogite, j'aime. Alors le premier jugement vient cela, et on ramène tout à ce premier jugement. Mais c'est toujours ce que va chercher la critique. Il ne faut jamais oublier l'intention profonde de la critique. Nous avons essayé, à l'égard du concept, à l'égard de la connaissance en général, nous avons essayé, à l'égard de la connaissance en général, de chercher quelle est l'opération élémentaire. Nous avons vu l'appréhension. Donc, on ne peut pas aller au-delà. Maintenant, nous cherchons, à l'égard du jugement, l'opération élémentaire. C'est toujours une opération complexe, mais c'est quand même quelque chose de fondamental, jugement d'existence. Et en étudiant ce jugement d'existence, nous voyons qu'il est affirmatif, que la négation vient après, bien que, si j'écoute les modernes et les contemporains, la négation serait première. Alors il s'agit de comprendre pourquoi, ce que nous avons essayé de faire la dernière fois, pourquoi, de fait, on est arrivé à dire que la négation était première. Et au point de vue critique, c'est très important. Et je rétablis en disant non, c'est l'affirmation qui est première. Les anciens avaient raison. Et on voit très bien comment on est arrivé à cette affirmation de la négation première par le point de vue du possible antérieur à l'acte. Il y a toujours sous-jacent à une critique une métaphysique. Tout le temps. Les deux se tiennent. La métaphysique est avant la critique. Mais la critique a ce privilège de thématiser certaines choses que la métaphysique ne fait pas. Donc la critique a cet avantage de manifester plus certains problèmes que je ne comprendrais pas s'il n'y avait pas la critique. La critique manifeste. C'est le propre de la critique. C'est très bien. Quelqu'un qui critique, il aime de manifester et de revendiquer. Alors ça, c'est la revendication. Alors on fait une revendication de l'intelligence ici positive, pour elle-même. Comment comprendre ce premier jugement affirmatif, ce premier jugement d'existence, où l'intelligence adhère à ce qui est, qu'elle touche, qu'elle atteint. Et qu'elle atteint comme quelque chose qui est autre que l'intelligence elle-même, que ma propre connaissance. Quand vous vous tapez vous-même en disant « j'existe » et vous vous tapez pour bien montrer que vous existez et que vous résistez, quand vous dites « j'existe », votre existence que vous atteignez n'est pas votre intelligence, donc n'est pas votre cogito. Et bien, il y a tout de suite l'erreur de Descartes. C'est que Descartes a enfermé l'existence dans le cogito. Et le ergo est là pour exprimer ça. Si Descartes avait dit ceci est, Descartes n'aurait pas pu dire cogito ergo sum. C'est intéressant de savoir ça, même dans la formulation. Si Descartes dit cogito ergo sum, Descartes met le cogito avant le sum. C'est ça qu'il veut exprimer, ce n'est pas une conclusion, mais c'est une intégration. Le sum est intégré dans le cogito, donc il est enveloppé par le cogito. Alors que dans le jugement d'existence, l'affirmation de la réalité extérieure à ma connaissance est affirmée comme première. Et ma connaissance est affirmée comme seconde. C'est ça qu'il faut saisir. Quand vous dites « ceci est », quand vous dites « je suis », le « je », moi pensant, j'existe. Voilà ce que ça veut dire quand vous dites « je suis ». Moi pensant, j'affirme que j'existe. Et même si je vais un peu plus loin, je pourrais dire « moi pensant, j'affirme ». Que j'existe avant de penser. Parce que normalement, vous avez existé avant de penser. Si vous êtes un peu intelligent, vous arrivez à le comprendre. Si vous n'êtes pas très intelligent, vous vous enfermez dans votre cogito en pensant qu'avant votre pensée, rien n'existait. Alors à ce moment-là, vous identifiez votre cogito et votre existence. C'est terrible. Mais c'est important de saisir ça quand même. De saisir que mon cogito n'enveloppe pas mon existence, mais que l'affirmation du ceci est montre qu'il y a quelque chose qui existe avant ma connaissance, et que donc ma connaissance est relative à ce qui est, que je découvre, et que je peux atteindre, et que j'atteins réellement. Et au fond, toute la recherche de ma philosophie, c'est d'atteindre cet autre, c'est-à-dire d'atteindre mon existence, c'est-à-dire d'atteindre l'homme. Tout l'effort de la philosophie n'est pas en premier lieu d'atteindre la connaissance de l'homme. Mais tout l'effort de la philosophie, c'est d'atteindre en premier lieu l'homme existant. Et puis dans l'homme existant, il y a un petit sommet qui est sa connaissance et sa contemplation. Mais si sa connaissance était tout l'homme, il n'y aurait pas de contemplation. Parce que la contemplation implique le dépassement de l'homme par rapport à quelque chose qui existe, qui est au-delà de lui. Et c'est vrai que toute la philosophie n'est pas la réflexion sur la connaissance, c'est la réflexion sur l'homme. Mais c'est dans ce sens-là que je ne peux pas dire que la critique égale la philosophie. La philosophie est présupposée à la critique. Et la critique présuppose la philosophie. C'est pour que vous compreniez bien pourquoi j'affirme tellement sur le « ceci est », parce que nous sommes là à la source. Et alors, dès qu'on est à la source, la moindre petite déviation a d'immenses conséquences. Et donc, en affirmant « ceci est », je reconnais qu'il y a quelque chose d'antérieur à ma connaissance, et je suis relatif à cette connaissance. Je peux maintenant réfléchir sur le contenu intentionnel de ma propre connaissance, quand j'affirme ceci est. Puisque je le dis, je pense ceci est. Le ceci est tout entier ordonné à la réalité qui est antérieure à ce que je pense, à ce que j'affirme, et qui contient une intelligibilité plus profonde que ce que je connais de cette réalité, une intelligibilité plus fondamentale. C'est pour ça que je suis relatif à cette réalité et que tout ce que je connais provient de cette réalité, ou directement de cette réalité ou d'autres réalités semblables. Et donc, je peux réfléchir sur cette forme intentionnelle que je possède en moi, qui prolonge, mais qui prolonge en comprenant bien, en la dépassant. Le premier moment de ma forme intentionnelle dans l'appréhension. Comprenez bien ça.
Parce que ça, c'est important à saisir.
nous avions vu avant le jugement l'appréhension, cette saisie particulière de l'intelligence. Et nous avions dit que l'appréhension a comme fruit le concept. Et le concept s'exprime par des termes simples. Et ces termes simples correspondent aux catégories d'Aristote. Là, je situe exactement les catégories d'Aristote. Les catégories d'Aristote donnent donc, et c'est ça qui est... Je les situe au niveau critique. Hein. Je situe que les catégories d'Aristote prennent naissance à partir de l'appréhension, qui est l'opération élémentaire de ma vie intellectuelle. J'ai posé l'appréhension à partir du jugement, si vous vous souvenez bien. Hein. Parce que je suis conscient du jugement et par le jugement, je suis conscient de l'appréhension. Mais l'appréhension est une analyse, un élément analysé à partir du jugement. Je reviens maintenant au jugement, je regarde le jugement dans ce qu'il a de plus fondamental, ceci est. Et j'essaie de comprendre le fruit de cette opération particulière qui est ce jugement d'existence. Alors, je compare ce fruit et le concept. Ce fruit s'exprime dans un terme complexe. Ce terme complexe implique le nom et le verbe. Je résume tout ce que nous avions vu la dernière fois, n'est-ce pas ? En poussant toujours un peu plus pour arriver progressivement à bien saisir. Donc, il y a un fruit que je peux appeler le concept complexe, que j'appelle l'énonciation. Savoir. Et ceci s'exprime selon un terme complexe, le nom et le verbe. Pour qu'il y ait jugement, il y a nécessairement ce fruit. Mais ce fruit est très différent de celui de l'appréhension. Oui, je mettrai 1 et ici 2, en comprenant bien, parce que d'une certaine manière, le jugement est 1 et l'appréhension est 1 prime.
C'est presque mieux dire ça, n'est-ce pas ? Pour bien montrer que l'appréhension est saisie à l'intérieur. Quand je dis 1 et 2, vous comprenez qu'il y a toujours un très grand danger de considérer que le jugement vient après l'appréhension. Le jugement est ce dont j'ai conscience, c'est l'opération parfaite. C'est l'opération parfaite de ma vie intellectuelle, c'est dans le jugement. Et cette opération parfaite dont j'ai conscience, si je l'analyse, je découvre l'appréhension à l'intérieur du jugement, comme une opération élémentaire. Ça, c'est très important de comprendre le lien entre le jugement et l'appréhension. Je crois que c'est capital. Parce que la scolastique a complètement bouleversé cet ordre. Et alors, il est important de bien le saisir. Donc, il faut saisir comment ce terme complexe, ceci est, qui implique un nom et un verbe, n'est pas du tout l'addition des concepts. Nous l'avions déjà souligné une fois. L'addition des concepts, c'est tout simplement l'addition des catégories, des termes simples. Les catégories, c'est du reste le nom l'indique, quelque chose d'attribuable. C'est attribuable à un sujet premier qu'on appelle substance première. Et la substance première n'est pas une catégorie. Elle est l'au-delà des catégories. Elle est un sujet. Alors, comment j'atteins ce sujet ?
C'est le nom. Comment j'atteins le verbe ? Je ne peux pas le ramener au concept.
Le verbe ne fait pas partie des catégories. Ni le nom, ni le verbe ne font partie des catégories. Mais ils sont nécessaires aux catégories. S'ils n'existaient pas, les catégories n'existeraient pas. Vous voyez, je vous retrouve ici, au niveau du concept, ce que j'avais dit précédemment au niveau des opérations vitales. Si le jugement n'existait pas, il n'y aurait pas d'appréhension. Si le terme complexe, fruit du jugement, n'existait pas, c'est-à-dire si le nom et le verbe n'existaient pas, il n'y aurait pas de catégorie. Les catégories sont donc
quelque chose qui est à la fois antérieur au terme complexe et qui, cependant, ne peut exister qu'en fonction de lui. Donc, en fonction du nom et du verbe. Le nom et le verbe sont le fruit direct du jugement d'existence. Alors, c'est là où ça reste quelque chose de très intéressant à bien voir. Grammaticalement, le verbe est relatif au nom. Et c'est pour ça que grammaticalement, quelquefois, vous savez bien, ça se fait aujourd'hui, on peut dire que « est » n'ajoute rien. Et que c'est le « ceci » qui est intéressant. Puisque « est » est relatif à « ceci ». Grammaticalement, c'est très vrai. Alors que philosophiquement, au niveau de la critique, c'est l'inverse. C'est ça qui est très curieux. Philosophiquement, il faut bien le saisir, ça. Alors là, on pourrait essayer de réfléchir pourquoi il y a cette inversion de la grammaire par rapport à la critique. Et comment, alors ça nous joue des tours terribles. Hein. Ça joue des tours terribles, cette inversion de la... Et là, on le voit, c'est très curieux, c'est un lieu particulièrement intéressant pour voir ça. Au niveau critique, j'essaie de comprendre comment se forme ce jugement d'existence, ceci est. D'habitude, vous faites spontanément. Hein. Vous n'allez pas réfléchir indéfiniment sur le jugement d'existence. Non, mais c'est trop bête, hein, puisqu'on n'y pense même pas. Oui, mais je veux qu'on y pense. Alors on y pense. Quand je dis ceci est, comment s'est formé le ceci est? Est-ce que c'est le nom qui est premier ou est-ce que c'est le verbe qui est premier? Le verbe tient lieu analogiquement à l'acte. Vous voyez, nous retrouvons la métaphysique de l'acte. Et le nom tient lieu métaphysiquement aux poses de la substance, c'est-à-dire de la substance première. Analogiquement, c'est la substance première. Le nom exprime quelque chose de substantiel, le verbe est toujours ce qui actualise. Donc au niveau métaphysique, c'est l'acte qui fait comprendre la substance première. Au niveau de l'intelligence, c'est bien le verbe, au niveau critique, c'est bien le verbe qui est source du nom. Très curieux, ça. C'est le verbe qui donne la signification au nom. Donc l'inverse de la fonction grammaticale, où est est entièrement relatif à ceci. Tandis qu'au contraire, au niveau critique, c'est est qui est l'acte qui donne la compréhension du ceci. Et ceci en fonction du fondement métaphysique. Il y a toujours une correspondance entre la critique et la métaphysique. Et la correspondance entre la critique et la métaphysique est beaucoup plus directe qu'entre la critique et la grammaire. Et vous comprenez bien pourquoi. Parce que le langage est un signe conventionnel, alors que la critique n'est pas un signe conventionnel, c'est un signe naturel. La forme intentionnelle que je forme en pensant, au niveau de l'appréhension ou au niveau du jugement, c'est une forme intentionnelle qui est un signe, un effet de la réalité. Et c'est un signe naturel. Mon intelligence est naturellement faite pour connaître la réalité, et non pas conventionnellement. Vous voyez ? Mon intelligence n'est pas fédéralement ordonnée à la réalité. C'est extraordinaire, ça. Elle n'est pas conventionnellement ordonnée à la réalité. Parce que la fédération, c'est quand même une convention, n'est-ce pas ? Donc elle n'est pas fédéralement ordonnée à la réalité. Elle est naturellement ordonnée à la réalité. Tandis que mon langage est conventionnel. Donc il peut être fédéral. Mon langage est conventionnel. La Confédération peut très bien décider qu'il y aura telle ou telle langue officielle. Très bien. Ça fait partie des conventions, ça. Et ça fait partie du conventionnel. Le conventionnel, il se prend de quoi ? Est-ce qu'il se prend de la finalité ? Non. Il se prend du conditionnement. Alors, vous commencez à comprendre comment la grammaire exprime le conditionnement de notre vie intellectuelle, alors que la critique et la métaphysique sont orientées vers le point de vue de la fin. Alors, ça fait comprendre des quantités de choses, ça, au point de vue de ce qui se passe aujourd'hui, si on veut essayer de comprendre un peu. On voit comment critique et métaphysique sont liées, alors que la grammaire n'est pas liée directement à la métaphysique. Je peux être un très bon grammairien et philologue sans rien savoir du tout à la métaphysique. Mais il vaut quelquefois peut-être mieux. Bon. Parce que autrement, on ferait des petits mélanges. Et c'est vrai, c'est un fait, c'est tout à fait différent. Tandis que la métaphysique et la critique, je ne peux pas être un bon critique si je ne suis pas un métaphysicien. Impossible. C'est la métaphysique qui me permet de comprendre le point de vue de la critique et d'aller jusqu'au bout de la critique. Tandis qu'au niveau du langage, je reste à un niveau conventionnel. Et le point de vue conventionnel est toujours lié au conditionnement de ma vie intellectuelle. Il est lié doublement à mon conditionnement. À mon conditionnement en tant que je suis un animal politique. C'est le conditionnement de l'animal politique. Parce qu'il y a des conditionnements à des niveaux différents. Pas seulement le conditionnement de la raison, ça c'est la logique. Tandis que le conditionnement de l'animal politique, c'est le langage. Oui. Vous avez donc là un conditionnement particulier qui est le propre de... C'est vrai, si on a besoin de parler, c'est parce qu'on est un animal politique. Si on était un animal solitaire, on n'aurait plus besoin de parler, n'est-ce pas ? Et alors on résorberait le conventionnel dans le logique, en première démarche. Et ensuite le logique dans le métaphysique, quand on arrive à la contemplation pure. Vous voyez, c'est la raison, comme ça, on résorbe progressivement le point de vue du conventionnel, le conventionnel qui s'appuie sur notre conditionnement, à l'aspect de la finalité. Vous avez les étages différents. Alors, il faut essayer de comprendre ici comment ce fruit s'est produit, non pas à partir du concept, c'est ça qu'il faut saisir, mais directement à partir de la réalité. Mon jugement d'existence se forme par rapport à la réalité. C'est la réalité elle-même qui détermine mon intelligence. Mais pour connaître cette réalité, il a fallu avant des appréhensions. Et donc il a fallu avant les catégories. Les catégories sont donc au niveau du conditionnement le plus fondamental de mon intelligence, qui, parce qu'elle est une intelligence liée au sens, est une intelligence qui appréhende comme opération élémentaire dans tout jugement. Mais le jugement, lui, se forme comme opération parfaite directement face à la réalité. Et c'est pour ça qu'il est en dépendance de l'acte, et par l'acte, je remonte à la substance première. Et c'est pour ça que le verbe me fait comprendre le nom. C'est très curieux. Ça. Alors il y a évidemment, comprenez bien, il y a le nom et les catégories sont reliés d'une certaine manière plus directement. Et le verbe, lui, actue le nom. Vous voyez, vous avez donc, c'est ça qu'il faut essayer de saisir, hein, au niveau de la forme intentionnelle. Parce que nous sommes là au niveau de la forme intentionnelle. Nous sommes au niveau de la critique du concept et de la critique de l'énonciation. Donc, au niveau de la forme intentionnelle, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a les catégories. Il y a le dépassement direct des catégories par la substance première, c'est-à-dire le nom. Et puis, il y a le dépassement du nom par le point de vue du verbe. Le verbe. Je suis là en face de l'attribution en acte. Ce qui est attribué en premier lieu à la substance première, c'est le verbe. Vous avez donc les catégories, le nom et le verbe. Et tout cela au niveau proprement de la forme intentionnelle. Le lien se fait entre le verbe et le nom. Le verbe ne s'attribue pas directement aux 10 catégories. Mais les 10 catégories, elles, peuvent être attribuées au nom grâce au verbe. Oui, comme. Réfléchissez sur ce triangle, si vous voulez. C'est un petit triangle très intéressant, parce que c'est le triangle de base de toute ma vie intentionnelle. Toutes les formes intentionnelles, en moi, profondément,
sont, ou le niveau des catégories, qui sont des termes simples, ou au niveau du nom et du verbe, qui sont corrélatifs l'un par rapport à l'autre. C'est comme l'acte et la puissance, c'est corrélatif l'un par rapport à l'autre. Eh bien, le nom et le verbe sont corrélatifs l'un par rapport à l'autre. À la fois, vous pouvez être comme ça, vous pouvez être comme ça, pour bien montrer la corrélation. N'est-ce pas ? Du verbe, vous allez vers le nom, du nom, vous allez vers le verbe. Et c'est réciproque. C'est une réciprocité, vous ne pouvez pas séparer le nom du verbe et le verbe du nom. Tandis que vous pouvez abstraire les catégories. Vous ne pouvez pas abstraire le nom du verbe. Vous ne pouvez pas abstraire le verbe du nom. Tandis que les catégories, oui. Selon notre mode habituel de connaître, hein, nous pourrons, dans une interrogation, séparer, distinguer le verbe du nom. Quand je me pose la question, qu'est-ce l'être ? C'est une interrogation très importante. Hein. Qu'est-ce que c'est que l'être ? Qu'est-ce que je fais à ce moment-là ? Je regarde uniquement le verbe. Oui, donc, je ne sépare pas, mais je lui donne un sort unique en me posant la question, qu'est-ce que c'est que l'être ? L'être est un verbe, et quand je le distingue du nom, je lui donne donc un sort unique en disant, qu'est-ce que c'est que l'être ? Mais vous voyez qu'à ce moment-là, je ne suis plus du tout au niveau du conditionnement. Ma métaphysique, ce n'est pas du tout au niveau du conditionnement. Tandis que quand je regarde ici, le lien entre catégorie, nom et verbe, je reste au niveau de ma manière naturelle de connaître. Et ma manière naturelle et fondamentale de connaître, c'est d'avoir des termes simples. Je connais d'abord les diverses formes, les diverses quiddités. Je connais ensuite des noms et des verbes que j'ajuste de diverses manières. Vous voyez, pour faire le lien entre le nom et le verbe. Et alors là, j'ai les trois. 1, 2, 3. Et ceci, c'est toujours au niveau des formes intentionnelles. Vous voyez que c'est quand même extrêmement curieux au point de vue critique de voir ça. Moi, c'est, je trouve ça très intéressant de saisir au point de vue critique cette alliance qui se fait entre le nom et le verbe au niveau du jugement et qui a quelque chose qui est présupposé, c'est les termes simples, les catégories. C'est pas commode hein, de comprendre le passage des catégories au nom et au verbe. C'est vrai, c'est pourtant ça qui est intéressant à voir. C'est le passage entre les deux. C'est de voir comment l'appréhension qui provient du jugement retourne au jugement. Vous comprenez que si l'appréhension ne provenait pas du jugement, le très gros problème, ce serait le problème de Descartes. Et ce serait le gros problème de la phénoménologie d'aujourd'hui. Ce serait de savoir comment une forme intentionnelle peut-elle me permettre de rejoindre le réel. Vous voyez qu'au plan critique, c'est là où je saisis la question. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Je reprends pour que vous voyez bien. Parce que ça me semble très intéressant et important. J'ai dit qu'il fallait essayer de saisir le lien entre catégorie, nom et verbe. Tous comprendre ça. La différence, si vous voulez, prenez des exemples pour que vous compreniez bien. Chat. Le minet, celui-ci que vous montrez, hein, celui-là qui existe, hein, ce chat merveilleux qui existe. Hein. On a toujours devant soi un petit animal qui est vivant et qui nous montre là. On prend un petit chat dans une petite caisse. Alors là, ou un écureuil, il sera encore mieux. Pour ceux qui manquent d'attention quand ils sont dans l'abstraction, ils reviendraient vers le point de vue concret. Ce petit chat existe. Donc vous voyez, chat, ce chat existe. Avec ça, vous pouvez tout faire. Vous avez chat, ce petit minet, il existe. Donc vous avez les trois chat catégories. Le nom et le verbe. Vous voyez bien, c'est tout à fait fondamental à ma vie intellectuelle, ça. Et c'est exprimé dans le langage. Tout à fait fondamental à ma vie intellectuelle, et c'est exprimé dans le langage. les catégories, les termes simples, le nom et le verbe. Vous voyez la question que je me pose maintenant, quel est le lien entre ces catégories, chat, cette idée chat que j'ai, cette idée chien, cette idée homme, le nom, ce chat, et le verbe existe. Quel est le lien entre les deux, entre les trois? Je vois le lien immédiat entre nom et verbe. Ça, c'est facile à comprendre, parce que c'est donné immédiatement dans le jugement d'existence aussi. Donc, je vois le lien réciproque entre nom et verbe. Mais c'est très difficile, c'est de voir le lien avec la catégorie. Ce chat existe, ça va très bien. Mais c'est chat. Pourquoi j'ai eu besoin de dire chat avant de dire minet existe? C'est quand même très curieux. D'avoir le besoin de passer par chat avant, par le terme simple, passer par les catégories, et d'avoir saisi ces diverses catégories. Pourquoi ça? Alors que ce serait tellement plus facile de dire tout simplement « télescopons l'appréhension et ne regardons que le jugement ». À ce moment-là, j'aurais... Ça existe, ces positions-là. Il ne faut pas l'oublier, ce que je dis. Il y a des positions qui sont comme ça, qui ne regardent que le point de vue du jugement d'existence et vous ne voulez plus regarder l'universel. Les stoïciens ont fait ça. C'est la position des stoïciens. Les stoïciens sont les premiers à avoir supprimé l'appréhension. Alors, ils n'ont regardé que le jugement d'existence. Et ils n'ont plus les catégories. Et après les stoïciens, regardez Plotin. La critique que fait Plotin des catégories, qui est si intéressante. Plotin refuse les catégories. Et alors, derrière Plotin, tout le néoplatonisme. Puisque Plotin est le premier, chef de file du néoplatonisme. Donc, c'est quand même très important de voir qu'on a regardé plus que le lien entre le nom et le verbe, et puis on a télescopé tout le problème des catégories des termes simples. Vous voyez, c'est évident que ce serait beaucoup plus simple, ce serait beaucoup plus descriptif. Au niveau descriptif, je ne peux pas comprendre les catégories. Je ne peux comprendre les catégories qu'en analysant le jugement. C'est ce que nous avions vu. Nous avons vu comment, à partir du jugement, il fallait, mais si je veux aller le plus loin possible dans l'analyse, poser l'appréhension. Parce que le jugement est complexe, et donc il présuppose une opération élémentaire. Et cette opération élémentaire, c'est l'appréhension. Donc vous voyez bien comment j'ai posé l'appréhension à partir du jugement, pour analyser. Si je ne fais que décrire, je supprime l'appréhension. Stoïcien, Plotin, le néoplatonisme. Parce que de fait, la position du néoplatonisme est une position descriptive et non pas une position qui implique une analyse des causes. C'est pour ça qu'à la place de la causalité, c'est la participation. Parce que la participation est une position descriptive et non pas une analyse des causes. Si on veut aller jusqu'au bout et bien comprendre. Alors, nous comprenons, j'essaie de saisir, hein, nous posons l'appréhension à partir du jugement. Si je pose l'appréhension à partir du jugement, je comprends donc que l'appréhension est toujours à l'intérieur d'un jugement. Donc la catégorie, les déterminations, parce que les catégories c'est ça, les déterminations fondamentales de ce qui est, de la réalité existante, ces déterminations fondamentales sont toujours saisies à l'intérieur d'un nom concret. Les catégories et les déterminations sont, elles, abstraites, mais le nom est concret. Et c'est toujours saisi à partir du nom. Donc, je n'ai plus à me poser la question comment, à partir d'une forme abstraite, d'une idée, je peux rejoindre le réel. Puisque cette forme abstraite, je l'ai saisie à partir du réel. Donc, il implique le lien direct et essentiel. Tandis que si j'ai séparé l'appréhension, alors à ce moment-là, je me pose la question, comment une forme intentionnelle, une idée, un concept, existe-t-il dans la réalité? Quel est son lien avec la réalité? J'ai séparé l'appréhension du jugement, et en séparant l'appréhension du jugement, alors à ce moment-là, je me pose la question, comment une forme intentionnelle peut-elle rejoindre le réel? Autrement dit, que vous voyez bien, parce que c'est important, là, nous saisissons quelque chose qui me semble très important à saisir. Nous voyons dans l'histoire de la pensée, et pour le démontrer très facilement, j'ai regardé tout à l'heure le néoplatonisme parce que c'est particulièrement important. Nous voyons deux grandes positions philosophiques. La position de ceux, trois grandes positions, la position de ceux qui acceptent l'appréhension en séparant l'appréhension du jugement. Position de Descartes. Le jugement vient après. Seconde grande position. La position de ceux qui n'acceptent que le jugement et qui ne font que décrire. Et puis, troisième position, ceux qui comprennent que l'appréhension ne peut se saisir qu'à l'intérieur du jugement, comme une analyse du jugement. Mais je crois que c'est les trois grandes positions. Vous pouvez tout ramener là. Je crois que toutes les positions philosophiques se ramènent à ces trois positions-là. Parce qu'on est, on est là, vraiment, au point de vue critique, à quelque chose de très, très fondamental. Alors, où vous mettez l'appréhension complètement séparée, intelligo, cogito, vous avez une appréhension, des idées innées. Des idées innées. Des formes innées qui sont données au premier lieu. Et qui me sont données, alors, directement, comme une appréhension séparée du jugement. Alors à ce moment-là, je me pose la question, comment ces idées peuvent-elles rejoindre le réel? C'est très vrai, elles sont nées en moi. Ce sont des formes intentionnelles. L'intentionnel, comment peut-il rejoindre le réel? C'est une très grave question. Comment l'intentionnel? Et je comprends très bien, j'ai séparé l'appréhension du jugement. J'ai séparé a priori. C'est un a priori, ça. Parce que rien ne me dit que l'appréhension est séparée du jugement. Mais je peux le donner a priori. Alors, première position philosophique. Deuxième position philosophique, celle des stoïciens, qui n'acceptent pas l'appréhension et qui n'ont que le jugement, et même qui n'ont que le raisonnement. En réalité, ils n'ont plus que le raisonnement. C'est du reste, je crois, très significatif. Si vous supprimez l'appréhension, il n'y a plus que le raisonnement. Enfin, ce serait aussi intéressant à voir. Je ne le vois pas maintenant, parce que ce serait alors encore un peu trop compliqué. Il faudra le voir avec le raisonnement. Il faudra voir avec le raisonnement comment l'appréhension étant supprimée, alors le jugement ne peut plus être supporté que par un autre jugement, d'où le raisonnement. Vous voyez, le si. Voilà, toute la logique, on sait très bien, toute la logique stoïcienne commence si. Alors, il ne voit que le jugement hypothétique, n'est-ce pas? Alors, le jugement est donné en supprimant les appréhensions. Alors, à ce moment-là, évidemment, je ne saisis que la réalité existante, je ne saisis que le fait. Et je ne peux plus saisir que le fait. Je n'ai donc plus de recherche de quelque chose qui impliquerait des principes, c'est absolument impossible, je décris. Il n'y a plus que description. Troisième position, la position que nous avons essayé d'expliquer, comment l'appréhension est saisie à travers le jugement. Et alors à ce moment-là, je comprends que le nom implique une détermination, tout nom implique une détermination, donc implique une catégorie. Je ne peux penser le nom qu'à travers les catégories. Et je ne peux penser le nom que par le verbe. Voilà ce que je crois ce qu'on doit dire. Verbe et nom sont pensés simultanément. Donc je ne peux penser le nom qu'à travers le verbe, que par le verbe, qui est là. Mais le nom porte les catégories.
il porte les catégories et c'est pour ça qu'il peut se les attribuer. Je peux dire « Pierre est un homme ». Vous comprenez que si je dis « Pierre est un homme », ça prouve que dans Pierre, il y a « homme ». Autrement, je ne pourrais pas le dire. Quand je dis « ce chat est un animal », ça prouve que dans « chat » était « animal ». Autrement, je ne pourrais pas le dire. Et c'est par le fait même, je comprends comment le nom contient toutes les appréhensions, contient toutes les catégories, et que grâce au verbe, j'explicite ces catégories. Bon, le point de vue du verbe va actuer le nom et va permettre de mieux comprendre tout ce qui est contenu dans le nom. Et dans le nom est contenu toutes les catégories. Vous voyez, là, je crois que nous saisissons, autant que nous pouvons l'expliquer, nous saisissons comment le jugement implique un fruit qui est tout à fait nouveau, autre que l'appréhension. Ce n'est pas l'addition de deux catégories. C'est le nom et le verbe. Ce n'est pas du tout l'addition des catégories. Tandis que pour Occam, le jugement serait l'addition des catégories. Il ne faut jamais l'oublier. Et alors à ce moment-là, le jugement ne rejoint pas la réalité existante. La réalité existante échappe, puisqu'il n'y a pas en premier lieu dans le jugement le verbe. Je demeure dans l'ordre du possible. Et je n'atteins pas l'acte. Je demeure dans l'ordre du possible. Parce que si j'additionne des catégories, je demeure dans l'ordre du possible. Les catégories sont dans l'ordre possible, mais n'atteignent pas l'acte. Pour atteindre l'acte, il faut justement un jugement qui atteigne directement la réalité et qui l'exprime par le verbe. Le verbe exprime l'acte. Le langage me sert en métaphysique, le langage me sert en critique. Mais j'analyse le langage au plan philosophique, je l'analyse au point de vue critique. Une fois que je comprends qu'il y a ce fruit nouveau dans le jugement, qui est l'énonciation, je comprends que cette énonciation, qui est le fruit de ma connaissance, n'est pas adéquat à mon jugement. Mon jugement va plus loin que l'énonciation. Mon jugement est capable de saisir quelque chose de plus que l'énonciation. Puisque mon jugement se termine à la réalité. Et donc le jugement peut, à partir de là, comprendre qu'il est conforme à la réalité dans son énonciation. Et c'est pour ça que la définition tout à fait précise de la vérité, ce n'est pas adéquatio intellectus ad rem, comme dit saint Thomas. C'est très juste, mais ce n'est pas assez précis. Aujourd'hui, on est obligé d'aller plus loin. On est obligé de dire adéquatio de l'énonciation et de la réalité. Et je crois que c'est important, cette précision. Vous voyez, c'est ce que j'énonce comme adéquat à la réalité. Du reste, je crois qu'on peut l'énoncer de cette manière-là. Ceci est, et je vous dis que ce que j'affirme est vrai, c'est-à-dire conforme à la réalité. Donc c'est l'énonciation qui est conforme à la réalité, et c'est l'énonciation qui est mesurée par la réalité. Et ce n'est pas l'intelligence comme opération vitale qui est conforme à la réalité. Ceci, c'est pour reprendre ce que nous avions déjà dit la dernière fois, mais je le reprends toujours en creusant plus, parce qu'il faut aller le plus loin possible pour saisir cette chose importante, la naissance de la vérité, quand même, c'est très important. Où naît la vérité? Où elle naît? Eh bien, où est-ce qu'elle va naître? Elle va naître à partir de cette possibilité que j'ai de confronter ce que je dis à la réalité. Si je peux confronter ce que je dis à la réalité, ça prouve que mon intelligence connaît plus que ce qu'elle énonce soi. Ça, c'est merveilleux. Je suis plus intelligent que ce que je dis. C'est merveilleux. Vous ne pouvez jamais regarder l'adéquation de l'intelligence de quelqu'un à ce qu'il dit. Heureusement pour lui. N'est-ce pas? Il connaît plus. Parce qu'autrement, il ne pourrait pas dire ça. Si je ramène mon intelligence à ce que je dis, il n'y a plus de vérité.